Chers auditeurs, chers auditeurs, bonjour, rebonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Campus Lille. C'est l'émission Lille 1 Info, une émission produite par René Lavergne de Radio Campus Lille. Et actuellement, au micro, vous avez Doc Map de Musicopier pour prendre le relais durant les quelques semaines de voyage par Mons et par Vaux de notre ami René Lavergne. Aujourd'hui, nous recevons le professeur de génie mécanique, Rodolphe Astori. Bonjour Rodolphe.
Bonjour.
Et aujourd'hui, Rodolphe Astori est là donc de Polytech, c'est bien ça?
Tout à fait, de Polytech. Oui, bah ouais.
Et là pour nous présenter en fait un projet, c'est-à-dire un lieu de prototypage d'objets transversales aux différents domaines de compétences de l'école polytechnique sur un modèle type Fab Lab. Autre projet, un atelier de réalisation de pièces plus techniques en libre accès à tous, après validation de formation, toujours au sein de Polytech Lille. Et là, en fait, j'ai lu ce que vous nous avez envoyé, parce que vous avez la gentillesse de nous envoyer des questions, vu que moi, on sort un peu de mon domaine de compétences, moi qui suis plutôt lettré. Je suis perdu, je n'ai absolument rien compris à ce que vous faites, mais ça a l'air passionnant. Alors, bien sûr, comme c'est un média radiophonique, vous vous doutez bien, Rodolphe, que je vais vous poser des questions très ouverte, mais c'est surtout en fait pour faire sens à notre interview aujourd'hui. Alors expliquez-nous un petit peu en fait ce que vous faites à Polytech, et c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on entend par la productique, c'est-à-dire l'apprentissage des moyens de production et assistance à la réalisation des pièces mécaniques pour les élèves ingénieurs, qui a l'air clair comme ça, mais là encore je pense que sur le plan du média que nous sommes, ce serait utile en fait de rentrer un petit peu plus dans la démonstration avec par exemple des exemples concrets afin de raccrocher les différents auditeurs à ce que vous faites en tant qu'enseignant, enseignant-chercheur à Polytech. Et également, ensuite en fait on passera un peu plus dans le détail donc de Fab Lab, parce que déjà un modèle type Fab Lab, faut quand même reconnaître que nous ne savons pas ce que c'est.
Oui, donc,
à vous Rodolphe.
Je peux passer un petit peu de temps effectivement pour expliquer. Donc moi je suis enseignant en génie mécanique, c'est-à-dire que j'accompagne les étudiants dans l'idée de fabriquer les objets qu'ils ont pensés. C'est des étudiants en mécanique essentiellement au départ. Mm-hmm. Et puis donc nous on fabrique des systèmes qui sont finalement qui nécessiteraient un petit peu de par exemple d'électronique pour être animés, des moteurs pour les faire bouger. Donc nous, on fabrique les cinématiques, mmh. et puis il faudrait les faire bouger. Donc ça, on n'y va pas spécialement. C'était un peu une limite de notre domaine de compétences. Et puis, par contre, il y a un autre département dans l'école qui, lui, s'occupe spécifiquement de travailler sur des moteurs pour faire bouger les systèmes, avoir des capteurs, les faire bouger dans certaines limites. Et donc... Après, il y a des gens qui travaillent plutôt sur les matériaux, voilà. Mais tout le monde était un petit peu dans son couloir. Mmh. Et là, en fait, à un moment donné, ces différents départements ont discuté ensemble pour se dire, on pourrait peut-être fabriquer un atelier où tout le monde se rencontre, mmh. et deviennent complémentaires l'un de l'autre pour fabriquer des systèmes un petit peu plus complets et permettre aux étudiants d'avoir accès à d'autres technologies que celles qui sont enseignées dans leur propre département.
Et qu'est-ce que vous entendez par un système un peu plus complet ?
Alors par exemple, si on met en place, nous on avait fabriqué à un moment donné une éolienne dans le département en mécanique, mm-hmm. donc on avait fait bouger des pales autour d'un axe, mm-hmm. Mais on avait un petit peu de mal à mettre un moteur derrière, on ne savait pas trop ce qui allait pouvoir être fait, donc on avait transféré notre mécanique au département automatisme, mm-hmm. qui eux s'étaient intéressés à fabriquer, à mettre le moteur derrière pour pouvoir capter l'énergie du vent. Mm-hmm. Donc ça, on ne pouvait pas le faire en une fois. Enfin, on est obligé de transposer le mécanisme dans les différents départements. Donc en général, ça prenait 6 mois pour un premier mécanisme, voire un an. Et puis ensuite, on transférait en automatique. Ça reprenait encore un certain temps. Mmh. Et là, en fait, dans des lieux là, comme on propose le fabricarium, on pourrait imaginer que tout ça se fasse un petit peu en même temps, en simultané. Et que les étudiants qui fabriquent la partie mécanique puissent discuter avec les étudiants d'automatisme dans un même espace et pas à un an d'intervalle. Et donc, cette année d'intervalle crée une coupure entre les deux projets. Mmh. Là, on a un lieu où on peut créer un échange entre ces deux parties. Mmh. On imagine avoir un design et une création d'une machine plus performante, plus réactive par rapport à l'objectif principal qui est de bon, à récupérer l'énergie du vent.
D'accord.
Bon, voilà, je sais pas si c'est...
Oui, là, c'est, bah, là, là, c'est beaucoup plus concret, donc fatalement, c'est beaucoup plus accessible, nous sommes bien d'accord.
L'idée, c'était de faire en sorte que les différents départements puissent se rencontrer dans un endroit, oui. Les différents domaines de compétences, je parle de département, mais finalement, c'est des domaines de compétences, et échanger, échanger dans cet endroit, et de par l'échange, créer des choses nouvelles. Peut-être de nouvelles idées sortent de cet échange qui avant était très très cloisonné. Voilà, donc on arrive dans un espace où le partage devient une valeur un peu plus forte, partage de compétences, partage de savoir.
Est-ce que ça veut dire en fait que le Fab Lab a pour objectif de conjuguer les différentes compétences au sein de Polytech?
C'est un des objectifs, tout à fait. Créer un lieu où on puisse échanger sur ses compétences, voire demander de l'aide. On a plein d'exemples cette année dans les différents départements où des mécaniciens se mettent à travailler des choses d'électronique sur des petits systèmes qu'on appelle Arduino pour créer un petit système électronique, mais qui leur sert plutôt en mécanique. Et comme ils ne savent pas faire, et bien ils croisent soit un professeur, soit un étudiant qui sait faire. Et en discutant, bah, on arrive à trouver la solution.
Et alors, comment êtes-vous arrivé à faire émerger ce projet? Y a-t-il eu une demande particulière? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est réveillé le matin en disant « j'ai une idée » Ou est-ce que c'est suite à certains freins, par exemple, dans le fonctionnement de l'enseignement supérieur, qui fait qu'on a eu d'abord un problème qu'il a fallu résoudre et qui a amené en fait, ensuite la naissance du projet Fab Lab?
Alors, on est plus sur cette forme un peu de accident entre guillemets au départ, hein. C'est-à-dire que en fait nous d'un point de vue mécanique on devait déménager notre atelier de mécanique, donc on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir transformer notre atelier pour que il soit un petit peu différent, un peu plus accessible peut-être à d'autres personnes. En parallèle il y avait le département sciences des matériaux qui avait acheté une imprimante 3D pour travailler sur les polymères. Et puis dans un troisième temps il y avait le département d'automatisme qui travaillait déjà sous forme d'atelier qui réfléchissait à un espace type Fab Lab aussi dans son coin. Et puis ça a retrouvé que la même année tout le monde a convergé vers l'espace est devenu une évidence pour au moins c'est dans un premier temps ces trois départements là et puis après on s'est dit que tous les départements avaient une place dans cet espace l'idée est venue de là et on a œuvré pour que ça puisse se mettre en place et la direction a très largement suivi sur cette idée là et maintenant on voit donc ça s'est monté en place en octobre. Et là on est en train de l'expérimenter. L'idée, c'était de faire aussi un prototype de cet espace-là. On ne savait pas trop comment ça pouvait réagir. Et en fait, on est très content pour l'instant de l'émulsion qui se crée au sein de ce lieu, quoi.
Alors justement, je rebondis sur votre présente remarque. Est-ce qu'en quelques mois, vous avez déjà un premier bilan à nous proposer?
Alors, je ne sais pas trop sous quelle forme on peut... Je pourrais présenter un bilan, mais...
Pas un bilan de compétences, rassurez-vous. On ne va pas appeler le DRH tout de suite. Mais bêtement, est-ce que vous avez déjà eu une émulation des énergies, volontés?
Alors, ça, on en voit plein de choses qui arrivent un peu par hasard. Un exemple, c'est un des... Alors, il y a différents personnages qui gravitent dans le... autour du Fab Lab et par exemple des étudiants qui sont très très impliqués je me suis aperçu que c'était des étudiants qui avaient rien à voir avec la mécanique donc au départ dans la formation des gens en génie civil ou en automatisme et qui le week-end chez eux faisaient de la fonderie.
Donc. Je n'aurais pas deviné si vous m'avez posé la question.
Exactement. Moi non plus, je ne pensais pas.
On peut occuper son week-end comme on peut.
C'était très, très intéressant de voir ça. Et du coup, on s'est aperçu que. Ils se sont mis en lien. On a découvert aussi un enseignant qui faisait de la fonderie dans l'école. Et c'est plein d'accidents, entre guillemets, comme ça, ou de coïncidences qui font qu'on arrive à mixer les compétences de chacun. Et à créer soit des activités. Donc là, du coup, on s'intéresse énormément à cet aspect fonderie qui n'était pas du tout prévu au début et qui nous permet de passer de l'imprimante 3D qui est plutôt de matière plastique mais avec peu de résistance mécanique, par exemple, quand les pièces sont sollicitées, à des pièces à plus forte résistance mécanique. Donc voilà, c'est un aspect qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ et qu'on va explorer.
Alors, je tiens bien sûr à préciser que si vos collègues ou vos étudiants nous écoutent, il n'y a aucune moquerie, mais nullement, mais c'est uniquement que ça surprend, en fait, la fonderie le week-end.
C'est normal.
C'est, voilà, on s'y attend pas, quoi.
Mais on découvre comme ça des personnages surprenants et très riches de plein de choses, donc c'est vraiment aussi cette découverte-là qui est intéressante.
Alors dites-moi, et ensuite, est-ce que vous avez... en ce qui concerne vos collègues, comment est-ce qu'ils ont abordé le lancement du projet ?
Alors, moi, je suis très content. Enfin, tout le monde est très enthousiaste autour du projet. J'ai pas de, enfin, vraiment, je vois que des choses positives. C'est peut-être mon œil. Mais non, j'ai même pas mal de collègues de différents départements qui s'impliquent aussi dans le Fab Lab, qui viennent largement filer le coup de main pour gérer un peu cet espace. Et apporter même des compétences. Donc vraiment, c'est très... Je découvre des gens que je croisais seulement avant et que bah, maintenant, j'ai des discussions plus appuyées. Enfin, on va plus loin, on a envie de faire des choses ensemble. Et je pense que c'est vraiment à la fois un côté convivial, à la fois technique, à la fois compétences. Et tout ça se mélange vraiment bien dans l'espace.
Et côté étudiant, comment se passe leur présence au sein du projet ? D'ailleurs, en fait, j'ai oublié de poser une question toute bête dès le départ. Vous adressez à quel type d'étudiants ? Sont des étudiants qui sont en master en particulier ?
Non, non, ça commence, enfin, n'importe quel type d'étudiant, et pas seulement étudiants. C'est-à-dire qu'on a les étudiants, mais on a les personnels qui peuvent très bien venir sur des projets personnels.
D'accord.
Enfin, le personnel de Polytech sur des projets personnels.
Personnel enseignant, vous voulez
voilà.
dire
Et personnel aussi administratif.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est ouvert à tout l'ensemble du personnel. Et puis, on essaye aussi de voir de quelle manière on pourrait l'ouvrir à l'ensemble de l'université. Pourquoi pas. Pourquoi pas le rêve de tout Fab Lab, c'est-à-dire d'ouvrir à l'ensemble du citoyen. Mais bon, là, voilà, on travaille, il y a une commission qui s'est mise en place pour réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait établir le lien avec l'ensemble des citoyens, enfin au moins en tout cas pour l'instant, Polytech, université, on étend le cercle au fur et à mesure où le prototype fonctionne, voilà, on essaie d'agrandir un peu le... Mais sinon c'est ouvert vraiment à tout type d'étudiants, quoi. Il n'y a pas de... Même, on a même cette année un projet avec des étudiants en agroalimentaire, donc a priori, dans la fabrication de prototypes, on pouvait se demander un peu ce qu'elle pouvait venir faire dans l'espace. Et en fait, elles ont eu un projet de jardin sur les toits. Mm-hmm. Et elles sont venues fabriquer une maquette d'un bâtiment de Polytech pour montrer, pour avoir en fait un démonstrateur dans les différentes réunions qu'elles allaient organiser autour du projet. Et je crois qu'il y a, y a un lien sur l'île 1 TV de leur projet.
D'accord.
Ça s'appelle Graines de Toit, qui montre un petit peu ce qu'on peut faire aussi. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de limite. On essaye de ne pas avoir de limite.
Très bien. Et justement, en fait, transition toute faite avec votre propos. Posons la question qui fâche. Vu que j'ai bien sûr en fait rassuré au téléphone tout à l'heure Rosemarie Carbonel, en fait, qui fait un énorme travail pour nous mettre en contact avec vous, les enseignants chercheurs de Lille 1. Donc, je lui ai dit, rassure-toi, Rosemarie. En fait, ça va très mal se passer. Je vais être méchant. Donc, voici la question qui fâche. Et le nerf de la guerre et l'argent dans tout ça. Comment ça se passe en fait pour financer le Fab Lab ? Est-ce que Polytech vous suit à 100%, quelles sont vos demandes vis-à-vis des modes de financement, quel est le matériel en fait dont vous avez besoin, vous voyez ce genre de questions. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je vous avais tout à l'heure interpellé sur et vos collègues, parce qu'on sait que ce n'est pas nouveau, mais ça ne s'arrange pas, les moyens financiers pour la recherche, c'est quand même en fait... un sujet particulièrement délicat, voire même douloureux, voire même en fait agaçant. Alors comment ça se passe pour vous avec le Fab Lab à Polytech ?
Donc l'esprit du Fab Lab, de manière générale, enfin défini par le MIT, c'est en fait mettre en place un atelier. Et en gros, ils donnent une fourchette. Hein, ça reste une fourchette de prix, mais avec à peu près 20 000 euros, on peut monter un système tel que celui qu'on a mis en place. Donc, ça c'est le point de départ. Polytech, la direction est partie, elle nous a suivi largement dans ce projet-là, ce qui fait qu'on a pu investir sur des machines un petit peu plus performantes que celles prévues dans l'enveloppe de 20 000 euros par le MIT. Donc, ce qui fait qu'on est très très bien équipé pour un Fab Lab avec, on va dire, trois machines un peu phares. Hein. Ça reste des outils, hein. C'est pas le plus important du Fab Lab, mais qui sont une imprimante 3D donc qui était déjà là, j'ai précisé tout à l'heure, qui avait été achetée par le département des sciences des matériaux. Mm-hmm. Et puis on a investi dans une découpe laser qui permet de faire des découpes très propres dans des matériaux, alors type carton, bois, plastique, plutôt plexiglas. Mm-hmm. Et puis une brodeuse. Machine à coudre brodeuse qui donc une machine un petit peu spéciale parce qu'elle correspond à aucun département spécifiquement. Mm-hmm. Et en fait on s'aperçoit que c'est une machine très fédératrice, très qui rassemble un petit peu tout le monde. Les étudiants y vont d'un point de vue personnel pour floquer leur sweatshirt ou leur t-shirt. Et puis on s'aperçoit aussi qu'en automatisme ils se disent bah tiens, on pourrait travailler sur les textiles innovants, on pourrait essayer de voir comment, mm-hmm, on peut faire un t-shirt intelligent qui chauffe quand on décide de chauffer dessus, ou d'avoir un petit curseur brodé en passant le doigt sur cette broderie, on pourrait faire chauffer le t-shirt. Mm-hmm. Là, je suis en science-fiction, hein, mais
j'entends.
Voilà, c'est une machine qui permet ce genre de choses. Et donc ces trois machines-là partent du numérique. Mm-hmm. Donc, et puis on a investi aussi dans quelques petites mallettes Arduino qui sont des microprocesseurs assez classiques dans le domaine des hackerspace et des Fab Labs qui permettent de...
Ah là, je suis reperdu. Arduino, hackerspace, voilà. Ça y est, c'est fini. Donc, non, c'est une drôle d'espèce quand même, les scientifiques.
On va dire que c'est le Arduino, c'est le... Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste hein, dans ce domaine-là, mais c'est un petit peu le cerveau qui pourrait commander pourquoi est-ce que l'imprimante 3D bouge suivant trois axes. C'est parce que le Arduino, le petit microprocesseur, lui permet de donner les ordres, en fait.
D'accord. C'est le boîtier de commande, en fait, préprogrammé, quoi.
Bah, oh là là, le vocabulaire devient technique.
Attends, je change de... Mokeja, comme on dit dans Schnorr.
Et puis, donc ça, c'est un outil assez classique pour commander des systèmes. Et,
d'accord.
Assez simplement, puisque après, on est aussi très très proche du libre. De tout ce qui est libre en termes de programme, de, mm-hmm, programmation, de lignes de code et tout.
D'accord.
Ça. Donc le Arduino aussi, c'est dans cet esprit-là, ce qui fait que si on veut commander un moteur, on trouve sur Internet un exemple de moteur commandé par Arduino, on copie les lignes de code et on a directement l'application. Ça va assez vite.
D'ailleurs, je tiens à rappeler à ma collègue qui est juste en face de moi et en face de mon invité que si elle a une question à poser, en fait, qu'elle lève la main, je me ferai plaisir de brancher son micro. Et quelle est, on va dire, un peu l'actualité ou le devenir du Fab Lab?
Alors, pour l'instant, le Fab Lab tel qu'il a été imaginé au départ, je vais l'appeler le Fabricarium parce qu'il y avait une petite nuance, on n'est pas encore tout à fait un Fab Lab dans le sens où on n'est pas dans la charte des Fab Labs, il faudrait être ouvert à l'ensemble du citoyen, mm-hmm, au moins une demi-journée par semaine.
Ah oui, quand même.
Enfin, oui, c'est ça, de manière gratuite, mm-hmm, de manière gratuite à l'ensemble du citoyen. Donc nous, on n'en est pas tout à fait encore là, ce qui fait qu'on ne peut pas encore vraiment en parler de Fab Lab, mais on travaille.
En devenir.
En devenir. Donc, je l'appellerai le Fabricarium. L'espace Fabricarium tel qu'il est défini actuellement fonctionne. Enfin, les étudiants viennent, se l'approprient. Au début, je me disais, ils vont venir, ils vont me poser des questions. Je voudrais faire ceci. Est-ce que je peux le faire? En fait, maintenant, ils rentrent et ils font. Donc, ah oui. Ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc, c'est très bien. Mon rôle important là-dedans est celui de Johan Dont ou de Loredan Nigro, qui sont les associés un peu au projet, mm-hmm. c'est de surveiller qu'il n'y ait pas d'accident corporel, évidemment. Ouais. Protéger les gens, protéger les machines. Voilà. Et puis, c'est vraiment juste notre rôle. Et puis, après, on implique aussi on impulse des projets. Mais, et encore que, parfois les projets sont pas les nôtres. On appuie, on dit ok, bon, on y va, on essaye, on verra bien si ça marche ou pas. Mais voilà, notre rôle se limite pour l'instant à ça. Et on aimerait créer un deuxième espace, alors là qui est un petit peu plus compliqué, mais je vais essayer de le présenter simplement. Cet espace-là, ce serait un espace beaucoup plus technique avec des grosses machines type fraiseuse, commande numérique, tour, commande numérique, soudage, voilà, de l'industrie presque, mais accessible à tout le monde. Donc, évidemment, ça pose un peu de... On sent qu'il y a une espèce d'antinomie dans le propos. Et l'idée, c'est nous, comme on est plutôt... Notre savoir-faire, c'est la formation. Mm-hmm. Ce serait former, en fait, les gens, les étudiants, les doctorants, à la fabrication numérique, donc sur des machines à commande numérique. Et puis, dans leur projet, une fois qu'on a validé leur niveau de formation, ils auraient accès aux machines et pourraient fabriquer des pièces mécaniques là, avec des résistances mécaniques plus importantes que celles qu'on peut faire actuellement au Fabricarium. Et ça pourrait être même ouvert à des entreprises ou à des très petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir ce genre de machines. Et sous contrainte de formation, on leur laissera accès à ces machines-là pour réaliser des prototypes. Voilà, donc ça, c'est un peu les projets pour la suite.
C'est très impressionnant parce qu'en fait, à vous écouter, on a l'impression qu'on est à un moment charnière entre dans l'ère industrielle, c'est-à-dire en fait, comme nous avons atteint quelque part des formes de limites de la dernière vague de révolution industrielle avec les produits fabriqués en série, voire même en fait l'obsolescence programmée. Et là, en fait, on vous écoute et on ne serait plus dans le travail en série, on serait plutôt dans chacun vient fabriquer ce dont il a besoin. Mais c'est complètement révolutionnaire sur le plan industriel, voire même sur le plan idéologique. Vous allez rencontrer au fur et à mesure en fait également des levées de boucliers avec les lobbies à faire des trucs comme ça. Va vous rendez compte en fait de la tête de Peugeot, de Renault ou de marques étrangères, hein, si ça nous amuse en fait à vous entendre en fait annoncer quasiment leur future mort, quoi.
Mais je dirais pas jusque là, mais eux aussi s'intéressent, enfin les grands groupes s'intéressent aussi à cet esprit Fab Lab et puis créent souvent même des Fab Labs au sein de leur alors ils appellent ça Fab Lab, mais il y a le problème de l'ouverture,
hein, parce que dans ce cas là c'est pas ouvert,
voilà, c'est ça, c'est ouvert vers l'intérieur, donc c'est pas non plus c'est ouvert entre les différents départements, mais pas... Et... Je sais plus, j'ai perdu
Oui, de toute façon, et l'esprit d'ouverture en fait qui ne peut pas être un peu approprié, enfin comment dire, intégré directement dans le domaine de l'entreprise privée pour des raisons tout bêtement en fait de propriété intellectuelle, de propriété du capital dans la définition tout bêtement en fait du capitalisme sans idéologie aucune, j'entends, même si en définitive nous savons parfaitement que nous sommes très étiquetés et nous le revendiquons à Radio Campus Lille, là n'est pas le problème. Mais alors dites-moi une dernière question avant de donner la parole à mon collègue Benoît qui semble en fait être interpellé par le sujet. Vous avez parlé du MIT, on parle bien du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. J'ai loupé un élément de présentation au début de votre intervention, il est partie prenante dedans ?
Non, c'est-à-dire qu'en fait c'est le MIT qui a défini un petit peu le concept du Fab Lab.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils sont partis sur cette idée d'étendre, de voir un petit peu avec les machines qu'eux avaient dans leur laboratoire. Mm-hmm. Si on produisait des laboratoires avec ce type de machines ailleurs dans le monde, mm-hmm. en Inde, en Norvège, en Afrique, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on capte de l'innovation ? Comment est-ce que ça réagit ? Donc ils ont lancé ce programme-là et puis en fait ils sont... Après, le concept de Fab Lab s'est répandu partout dans le monde. Mm-hmm. Mais pour eux, c'était un peu un accident. Mmh. Mais en fait, l'idée de départ était très intéressante.
Et est-ce que l'on peut reconnaître justement dans l'esprit très libertaire d'une partie de la communauté scientifique états-unienne, en fait, cette volonté d'ouvrir au moins une demi-journée par semaine le Fab Lab ?
Oui, je pense que c'est... je pense que la notion d'ouverture, c'est de dire que dans ces espaces-là, on veut créer l'innovation. Mm-hmm. Si on cantonne le travail à des gens qui ont le même type de format, mm-hmm. C'est-à-dire que si on travaille qu'avec des ingénieurs, on va avoir des idées d'ingénieurs mm-hmm. qui sont très intéressantes. Mais voilà, ce sont des idées d'ingénieurs. Si là-dedans, on fait rentrer un designer, si là-dedans, on fait rentrer un retraité, si là-dedans, on fait rentrer un enfant de 10-12 ans, mm-hmm. eh bien, il va se passer d'autres choses.
D'accord.
Il va se passer d'autres...
C'est une démarche très démocratique, dites-moi.
Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais.
C'est vrai qu'en définitive, j'aurais pu poser la question à l'envers. D'où vient cette volonté d'ouvrir une demi-journée par semaine le Fab Lab pour qu'il ait droit au titre de Fab Lab ? Ça aurait pu être plus impertinent de ma part comme question. Est-ce que c'est la même MIT ?
Pour nous, concrètement, au Fabricarium ?
Oui.
Non, je pense que...
Ou c'est une volonté, en fait, de Polytech, de Lille 1, je ne sais pas.
Ah non, alors, je pense que l'idée, c'est effectivement de coller à la charte des Fab Labs pour pouvoir être appelé Fab Lab.
Et d'où vient cette charte ?
Du MIT.
Ah bah voilà.
Pardon.
Ah bah voilà, d'accord. En définitive, j'étais sur la bonne piste, alors.
Mais le fait, on pourrait tout, dès maintenant s'appeler Fab Lab.
Oui.
Puisque c'est une auto-évaluation, en fait. On s'auto-évalue sur différents critères.
D'accord.
Et on pourrait dire, nous, par exemple, c'est ce qu'a fait le Fab Lab de Barcelone, où ils sont aussi, c'est un Fab Lab d'une école d'architectes. Mm-hmm. Et ils disaient Fab Lab, mais sur l'ouverture, en fait, ils étaient surtout ouverts pour l'école d'architectes. Mais ils ont dit, voilà, là-dessus, on travaille. On n'est pas encore ouvert à tout le monde, mais on travaille là-dessus. Donc, on pourrait se définir comme Fab Lab si on travaille en disant, on va travailler notre ouverture.
D'accord, Rodolphe. Benoît, notre collègue,
oui,
a une question.
Bonjour,
Benoît.
Bon, alors, en gros, Rodolphe a déjà commencé à répondre un petit peu à la question que je me pose, qui est plutôt sur l'aspect démocratique de la chose.
Oui.
En fait, c'est pour revenir sur l'histoire des groupes industriels qui peuvent collaborer.
Oui.
Moi, c'est plutôt la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes aussi ouvert à des collaborations avec d'autres structures plus petites, telles que des associations, des choses comme ça. Alors, par exemple, à la foire aux associations de Villeneuve-d'Ascq, qu'on a retransmis sur Radio Campus le dimanche 25 septembre.
Oui, enfin dans ces eaux-là.
Ça n'est malheureusement plus disponible sur les archives, j'ai pas pu aller vérifier, mais il y avait une association qui fait du process industriel avec monsieur et madame tout le monde. Et alors, ce qu'ils présentaient comme exemple, c'est que le week-end juste avant, ils avaient fabriqué une roue à rayon, c'est-à-dire fabriquer la jante, le moyeu, les rayons, mm-hmm. Donc énormément d'usinage, mm-hmm. tout ça avec des machines industrielles, mm-hmm. donc qui sont des machines dangereuses, mm-hmm. et l'objectif de cette association, c'est justement de réunir des professionnels qui ont accès aux machines, mmh. et avant tout de donner l'occasion à des gens qui ne sont pas du tout des professionnels de mettre la main sur des machines industrielles qui ont des contraintes très particulières, parce que sinon on repart avec une main au moins, au minimum.
Oui, c'est sûr.
Est-ce que ce genre de collaboration-là est envisagé aussi ?
Complètement. Enfin, moi, je suis intéressé par le nom de l'association.
Dès que je retrouve le nom, je vous dis. Voilà. C'est une association qui est basée à Villeneuve-d'Ascq.
Très bien. Il faut que je me rapproche d'eux. Donc, oui, on est ouvert à des types d'associations. Là, par exemple, on travaille le samedi. Alors, on ouvre le samedi à une association qui s'appelle Abel sur l'Ille 1, mm-hmm. l'association des bidouilleurs libristes. Donc, qui sont plutôt des informaticiens, doctorants ou étudiants. Et donc, eux ont eu connaissance de l'espace et mm-hmm. ont voulu l'investir très, très rapidement. Donc, on essaie de voir un petit peu comment, pour l'instant, j'ouvre le Fabricarium et je reste avec eux.
Oui.
Et on essaie de voir un petit peu comment ils pourraient avoir accès de manière plus autonome au lieu. Mm-hmm. Donc, tout ça, c'est en cours de mise en place. Oui. On est encore sous la forme de prototype. Mais l'ouverture, oui, à l'associatif, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on y aille.
Magnifique, merci beaucoup Benoît pour cette question très pertinente que je n'aurais absolument pas pu caser vu que, à l'instar de notre invité Rodolphe, je ne connaissais pas cette association. Honte à moi, je n'avais pas écouté l'intégralité en fait de votre travail sur les milieux associatifs.
C'est parce que je faisais la régie de diffusion finale pour la retransmission en direct, donc c'est-à-dire que j'écoutais ce qui se passe vu que j'étais dans le studio ici.
Et moi je pense que je faisais de la fonderie en fait ce dimanche-là. Bien, Rodolphe, une dernière question. Où vous trouvez ?
Où nous trouver ? Au centre du hall de Polytech. Mmh. Je pense que le jeudi, toute la journée, on est ouvert toute la journée le jeudi. Chaque jeudi.
D'accord.
Voilà, donc pas pendant les vacances, c'est-à-dire la semaine prochaine, je pense.
Oui, exactement. N'oublions pas qu'en fait, la semaine prochaine, c'est la fermeture.
Voilà. Donc, mais sinon, tous les jeudis, c'est ouvert. Après, parfois le samedi, mais on n'est pas sûr, enfin ça dépend. Pour
l'instant, on va déjà avoir comme base le jeudi.
Voilà, le jeudi.
À Polytech.
C'est Polytech pour des histoires de place ou de matériel ou c'est appelé à s'élargir à l'ensemble de l'université ?
Aucune idée du devenir. C'est à Polytech parce qu'on a impulsé les choses et que la direction nous a proposé un lieu vraiment superbe pour ça. Mm-hmm. Après, je ne sais pas du tout.
D'accord. Donc c'est ouvert. Voilà.
Il faut que ce soit ouvert.
Magnifique. Merci beaucoup, Rodolphe, donc au micro du 106,6 dans le cadre de Lille Info. Rodolphe Astoury de Polytech Lille nous présentait le Fabricarium futur Fab Lab estampillé tel quel. Et vous êtes tous et toutes, quel que soit votre âge, vos motivations, invités à rencontrer en fait cette magnifique aventure démocratique de la révolution industrielle du 21e siècle, du nouveau millénaire, devrait même dire en fait, à Polytech, donc en fait sur le site de l'université de Lille 1. Un grand merci, Rodolphe.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Tout le plaisir était pour nous. Et chers autrices, chers auditeurs, bien sûr, vous pourrez à partir donc de demain télécharger l'émission en vous connectant sur le site de Radio Campus Lille, www.campusille.com. Merci également pour ton intervention, Benoît.
Et je rappelle que c'est à partir de ce soir minuit qu'on peut télécharger l'émission.
Ouais, mais
c'est
là, moi je dors. Et également, en fait, merci à Patricia pour son regard bienveillant. Allez, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne suite de l'écoute des programmes du 106,6. Et au revoir, chers invités, et à bientôt.
Au revoir.